France Inter.
J'adore écrire des textes, enfin, je me régale avec ça, quoi, vraiment. Pour moi, c'est plus un travail, c'est une espèce de passe-temps, un peu comme des gens qui vont faire des grilles de mots croisés 24 heures sur 24, quoi. C'est un peu ça, ça m'amuse autant, en fait. C'est un jeu.
La source, c'est la tanière des écrivains, la planque des romancières, le lieu où les histoires commencent.
Il y a ce mélange de texte et de musique, mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas enlever de ça, qui est la représentation publique. Et je sais que c'est ça qui m'éclate, quoi. C'est ça que je veux faire. Comment, de quelle manière, j'en sais rien, mais je serai sur scène.
La source, Cécile Coulon sur France Inter.
Vous parle de littérature. Vous pensez peut-être à Flaubert, Balzac, Rimbaud. Vous pensez livres, librairies, théâtre antique et poèmes romantiques. Vous pensez sans doute aux pages classiques, peut-être aux livres audio aussi. Et la chanson. Je suis certaine que vous connaissez par cœur des chansons entières, que vous écoutez depuis l'enfance ou l'adolescence, des chansons qui ont soudé votre famille, qui vous ont fait rire, qui vous ont accompagné pendant les ruptures et les grandes joies. La chanson est littérature, seul le support change. Aujourd'hui, l'autrice, compositrice, interprète Juliette Nourédine, alias Juliette, occupe la chanson française comme sa voix occupe cet entretien, avec force, profondeur et humour.
Bonjour Cécile, c'est Juliette. Alors comme convenu, je vous attends mardi à mon domicile parisien, à mon pied-à-terre parisien. Vous verrez, c'est pas très difficile à trouver. Je suis juste à quelques numéros de chez le commissaire Maigret. Voilà. Bon, sinon, la porte est verte. Il y a un code que je vous donne et que je vous donnerai. Et c'est au quatrième étage. Voilà, mardi.
Pendant une heure, bien calé devant son bureau mal rangé, nous parlons de l'écriture, celle des mots et des notes.
Alors l'endroit où on se trouve actuellement, c'est mon pied-à-terre parisien. J'ai tendance à dire ma garçonnière, d'ailleurs, je trouve ça plus rigolo.
Ça ressemble plus à une garçonnière.
C'est vrai, hein, c'est un côté garçonnière. Ah, je suis d'accord. Non, parce que c'est un peu... Alors, une des choses qui me caractérise, c'est le bordel. Et c'est assez bordélique. Et là encore, c'est rangé. Hein. Pour moi, c'est très, très rangé. Mais depuis que j'ai vu le bureau d'Einstein et puis cette fameuse déclaration qu'il fait en disant... Il paraît que le bureau, c'est le reflet d'une âme. Qu'est-ce que vous pensez d'un bureau vide? Je pense que mon bureau me ressemble beaucoup. Donc, il y a des papiers, il y a des paquets de clopes, il y a pas mal de matériel. C'est-à-dire, il y a déjà deux ordinateurs. Hein. Il y en a un qui est pour le jeu, là. Ça, c'est pour le travail et les mails. Et puis, il y a une tablette aussi ici. Donc, voilà, c'est un peu le bazar. Là, il y a une bouteille d'eau, mais ça pourrait très bien être une vieille canette de bière. Voilà, j'aime bien, c'est mon bureau, quoi. Donc ça veut dire que quand il faut que j'imprime un document, il faut que j'enlève un paquet de papier qu'il y a devant l'imprimante, des mouchoirs en papier, une vieille tasse à café, enfin voilà, c'est chez
et
moi, quoi.
Des lunettes ?
Des paires de lunettes. Alors là, je suis madame lunettes, j'adore les paires de lunettes. Donc j'ai des lunettes là, ici, qui sont pour regarder justement sur l'ordinateur.
Qui ont été lavées avec des tranches de jambon.
Ah, vous connaissez cette expression, j'adore. Absolument. C'est ma mère qui disait ça, elle nettoyait ses lunettes au gras de jambon. Et non, moi je suis assez... En fait, là, c'est parce qu'elle traîne, celle-là. Mais sinon, je suis très soigneuse pour mes lunettes. C'est mon passeport pour la vie, moi, les lunettes. Donc j'en ai plusieurs paires toujours. Avec des fonctions différentes. Celle-là, c'est la paire de lunettes pour regarder donc à 60 cm l'écran. Ce qui fait que des fois, j'oublie de les changer. Alors, ça fait que... Ah oui, ça, c'est les vôtres.
Oui.
Ce qui fait que j'oublie de les changer. Des fois, je pars dans la rue et je me fais... Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde est bizarre aujourd'hui. Parce que c'est flou. Et en fait, c'est flou parce que je vois à 60 cm et plus loin, plus rien. Donc voilà, des lunettes, du baume à lèvres... Voilà, c'est un petit bazar sympathique. Ça me rassure, le bazar.
Et évidemment, dans ce bazar, il y a un tout petit objet, le piano.
Oui, alors il est petit, celui-là, c'est un petit piano, parce que je suis dans, comme je vous disais, dans mon pied-à-terre parisien, j'ai pas un vrai piano, c'est un piano électrique, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'en suis fort contente. dans mon vrai chez moi, qui est dans le sud-ouest de la France, j'ai un piano qui est beaucoup plus grand.
Dans mon piano droit, il y a eu d'abord l'innocence de la foi, au petit bonheur l'accord.
Mais ça a été une date importante dans ma vie, le jour où j'ai acheté un piano, un vrai piano. J'avais un piano droit, j'ai commencé à travailler sur l'informatique, donc j'ai eu des claviers dans tous les sens. Et il y a eu un moment, j'avais une quarantaine d'années, où j'ai eu gagné un peu d'argent et je me suis dit, là, je vais m'acheter un vrai piano. Et je me suis acheté le piano de mes rêves en plus, ça c'est bien.
Et dans son église, j'ai passé des heures à marier Élise au gai laboureur.
Et j'ai appris il y a peu de temps que Léo Ferré avait le même. Donc voilà, on a le même piano avec Léo Ferré, c'est pas mal.
Et qu'est-ce que ça a changé dans votre véritable pied-à-terre d'avoir ce piano de grande personne ?
Alors dans ma maison du sud, d'avoir un vrai piano de grande personne, ça m'a juste permis d'avoir un vrai piano de grande personne en me disant « c'est bien, comme ça je vais me remettre à travailler le piano », ce que je n'ai évidemment pas fait du tout. Mais de temps en temps j'ai des velléités, alors de temps en temps je ressors des partitions, je me remets des Chopin sous les doigts, des petits trucs comme ça, mais bon après ça ne va pas très loin, donc ce qui fait que j'ai pas un vrai travail, ce qui fait que du coup je fais pas de progrès, je suis là où j'en suis et puis j'avance pas beaucoup plus, mais ça me fait plaisir. Puis c'est sympa d'avoir un bon piano quand il y a des copains qui viennent, je sais que mes copains aiment bien quand je leur chante des chansons, donc on en profite, on chante des chansons.
Piano du couloir que j'ai laissé tomber pour un piano noir très embourgeoisé. Mais parfois j'invite Mozart ou un autre à rendre visite à mon vieil apôtre. Et pour un instant, on joue à l'envers la musique du temps.
Quand on écrit, quand on compose, est-ce qu'on cesse de travailler dans la journée parfois ?
Ah, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains qui se donnent comme ça la contrainte de dire je travaille de telle heure à telle heure et j'arrête de telle heure à telle heure. Ce qui est une bonne chose. Ce qu'il faut savoir faire, à mon avis, c'est s'arrêter au moment où on sait par quoi on va commencer le lendemain matin. Si on poursuit en disant il faut que j'aille au bout du truc, c'est maintenant, etc., généralement on finit par... par que ça soit trop, c'est trop nourri, donc au bout d'un moment ça marche plus. Et je crois que c'était Ernest Hemingway qui disait ça, que le moment où il fallait arrêter, c'est le moment où on savait par quoi on allait commencer le lendemain matin. Et je trouve que ça, c'est la seule chose, la seule contrainte que je me donne quand je suis dans des périodes de travail, c'est de ne pas aller au bout d'un truc en disant au moins demain matin, quand je me réveille, je sais par quoi je commence. Donc une nouvelle idée ou un nouveau truc et tout ça, hop, ça c'est bien pour démarrer, parce que sinon c'est aussi ça qui peut parfois engendrer la page blanche, le syndrome de la page blanche, c'est qu'on en a trop dit hier et on n'en a pas gardé pour le jour même. Il faut en garder pour le lendemain.
Il faut en garder sous la pédale.
Il faut en garder sous la pédale, c'est absolument très nécessaire, je pense.
Des escaliers sans fin et des voisins qui crient, une bête mansarde minuscule et navrante sur un triste faubourg pour le prix d'une rente. Mais j'avais une adresse et j'étais à Paris.
Vous avez connu Paris, vous connaissez toujours Paris, vous avez vu cette ville se transformer. Comment vous la décririez, cette ville, à quelqu'un qui y arrive aujourd'hui ? Quelles sont ces métamorphoses d'après vous ?
Alors moi, Paris, c'est une ville que j'adore. Et puis, d'abord parce que je suis née parisienne, donc voilà, il y a cette vieille amitié entre nous. D'abord, c'est une ville qui a tellement été chantée, en plus. Voilà. Et je ne sais pas si elle se transforme ou si simplement elle suit son cours, comme le cours de la Seine. Et je crois qu'elle suit son cours, en fait. Il y a cette idée de dire toujours Paris, c'était mieux avant, ou Paris, maintenant, c'est abîmé, etc. Je crois que c'est une idée qui date du 15e siècle. Hein. Je crois qu'il y a déjà des... J'ai le souvenir, comme ça, d'avoir une discussion avec un jour un chauffeur de taxi où on parlait des gens qui gueulent à Paris, des travaux, des machins, des bagnoles qui avancent pas, etc. Et je crois que c'est Clément Jeanquin qui a écrit un truc qui s'appelle Les Cris de Paris, et c'est exactement déjà ça. Oui, mais je pense que c'est vraiment, franchement, l'idée de Paris qui tourne mal, je crois que c'est un truc qui est vieux comme Paris, en fait. Donc moi, j'ai pas tellement de problèmes avec ça, en me disant... Je trouve que c'est ça, l'urbanisme. La ville, elle évolue au gré de ses habitants aussi. Je pense que c'est une espèce d'évolution on peut pas le gérer tout seul. Je sais pas comment dire. C'est un truc collectif, en fait. Elle suit son cours, quoi. La ville, elle suit son cours.
Maintenant, je suis chez moi, de Mouffetard aux Abbesses, heureuse locataire, sans bail ni préavis. Quand Paris fait tourner l'usine à nostalgie, c'est Paris tout entier qui devient mon adresse. Un chemin buissonnier par la rue des Écoles, l'été mélancolique du square des Batignolles, devant l'hôtel de ville, le baiser de Doinon et Jean Gabin qui gueule dans la rue Poliveau.
Dans votre garçonnière où nous nous trouvons, il y a quand même un détail dont on va parler, ce sont les livres.
Je pourrais difficilement vivre sans avoir des livres autour de moi. D'abord parce que c'est, je sais pas, c'est comme ça. Je suis née avec des livres autour de moi, des bibliothèques, des machins. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est pas fondamentalement les livres que j'ai lus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qu'on m'a offerts. Les livres que j'aime, que j'ai lus, que je relis, etc., ils sont plutôt dans le sud. Là, je sais même pas ce qu'il y a dans la bibliothèque, mais je peux pas vivre sans avoir des... Ouais, sans avoir des livres autour de moi, c'est comme ça. C'est les compagnons, quoi. Ils sont là. En plus, ça fait une excellente barrière acoustique. Si vous savez pas comment isoler votre appartement, vous mettez des étagères, vous mettez des bouquins, c'est magique.
C'est un peu plus joli que les boîtes d'œufs.
Et c'est beaucoup plus joli que les boîtes d'œufs, on est bien d'accord. Et en plus, de temps en temps, on peut en prendre un et le lire. C'est un avantage.
Quand on s'ennuie vraiment.
Quand on s'ennuie vraiment, en plus, on peut se servir de son isolation acoustique pour se distraire. C'est parfait, quoi.
Depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
France Inter. La source. Cécile Coulon.
Dans l'appartement parisien de Juliette, il y a un piano, des briquets, des ordinateurs, des paires de lunettes et des livres. Mais est-ce que la chanteuse se souvient de la première chanson entendue pendant l'enfance ?
Alors, je saurais pas me souvenir de la première chanson que j'ai entendue, ni de la première histoire qu'on m'a racontée, mais je me souviens de la première fois que j'ai lu un livre. J'étais petite, je commençais à peine à lire, donc j'étais au préparatoire, je commençais à assembler les mots et ça allait bien. Et c'est ma mère qui m'a appris à lire, parce que comme tous les mômes, j'apprenais à lire, mais je lisais à voix haute. Forcément, et c'est ma mère qui a pris le temps de m'enseigner comment on lisait dans sa tête, comment on lisait ou à voix basse et comment on lisait dans sa tête. Et je me souviens vraiment de ça, hein, du premier livre, et c'était donc Les Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur, et d'où j'ai gardé une grande passion pour la comtesse de Ségur, par ailleurs, et qui a façonné d'ailleurs mon enfance et mon goût pour la littérature du 19e siècle, fin de la parenthèse, parce que effectivement le premier livre que j'ai lu c'était celui-là. Mais l'histoire qu'on m'a racontée, j'ai pas tellement de souvenirs de ça. Après, j'ai bouffé des bouquins parce que j'ai adoré ça, quoi. Là, j'ai commencé à mettre dans les... Alors, on avait des livres, les livres pour enfants, ça allait du Club des Cinq à, évidemment, la Comtesse de Ségur, mais j'avais un bouquin qui m'a marqué, que j'ai lu, relu, relu, c'est La Bible racontée aux enfants. Donc là, c'est un roman extraordinaire, la Bible.
Avec oui.
Les plaies d'Égypte, les trahisons, les mers qui s'ouvrent pour laisser passer les prophètes. Enfin, c'est génialissime, quoi. Pour un gamin, c'était. Alors, c'était évidemment réécrit pour des enfants, mais ça m'a marqué. C'est un des bouquins qui m'a le plus marqué. Donc peut-être qu'il y a aussi une partie des choses que j'ai écrites après où c'est baigné là-dedans. C'est fait qu'effectivement, pour une mécréante notoire, j'ai toujours des références religieuses partout. Et en fait, ça vient et de la comtesse de Ségur, qui était quand même assez béni oui, très catho, très machin, c'était l'époque, hein, et de ce livre que j'avais lu, la Bible racontée aux enfants. Moïse dans son berceau, lâché sur le Nil, attends, c'était formidable.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin.
Chez vous, chez vos parents, est-ce qu'il y avait plus de livres ou plus de disques ?
Indéniablement beaucoup plus de livres. Et je partage cette chose avec Colette, que quand j'étais petite, dans la bibliothèque, tous les livres qui étaient à ma hauteur, à partir du moment où j'ai su lire, je pouvais les lire. Et donc, personne ne m'a jamais dit non, ça c'est pas pour toi, c'est pour les adultes, il faut pas que tu lises ça. Personne ne m'a jamais rien interdit. Ce qui fait que je des fois j'ai pris des livres, alors ça me tombait des mains, hein, il y a des bouquins quand on est gosse, c'est pas l'intérêt de la chose. Mais la couverture me plaisait, alors j'avais envie de le lire, c'est comme ça que je me suis retrouvée, j'ai dû lire. J'ai le souvenir de ça, je raconte cette histoire, j'ai dû lire Là-bas de Huysmans, je devais avoir 11 ou 12 ans. Je suis pas sûre d'avoir compris grand chose. Mais si, il y a quand même tout un truc qui m'a marqué, c'est l'histoire de... comment il s'appelle, Barbe Bleue, là, Gilles de Rais, qui a dans Là-bas de Huysmans, il y a quand même tout un truc sur les sorcières, enfin, etc., et puis sur Gilles de Rais. Donc ça m'avait assez passionné, tout en... maintenant, rétrospectivement, me disant qu'effectivement, c'était peut-être pas une lecture pour une jeune fille de 12 ans, mais bon, pourquoi pas, après tout. Ça va, j'ai survécu.
Démanchés, presque arrachés des épaules, les bras du Christ paraissaient garrottés dans toute leur longueur par les courroies enroulées des muscles. L'aisselle éclamée craquait, les mains grandes ouvertes brandissaient des doigts hagards qui bénissaient quand même dans un geste confus de prière et de reproche. Les pectoraux tremblaient, beurrés par les sueurs, le torse était rayé de cercles de douves par la cage divulguée des côtes. Les chairs gonflées, salpêtrées et bleuies, persillées de morsures de puces, mouchetées comme de coups d'aiguille par les pointes des verges qui, brisées sous la peau, la lardaient encore, çà et là, des chardes. L'heure des sanies était venue. La plaie fluviale du flanc ruisselait plus épaisse, inondait la hanche d'un sang pareil au jus foncé des murs. Des sérosités rosâtres,
des petits laits, des eaux semblables à des vins de Moselle gris, suintés de la poitrine, trempaient le ventre, au-dessous duquel ondulait le panneau bouillonné d'un linge. Puis, les genoux, rapprochés de force, heurtaient leurs rotules et les jambes tordues s'évidaient jusqu'aux pieds qui ramenaient l'un sur l'autre, s'allongeaient, poussaient en pleine putréfaction, verdissaient dans des flots de sang. Au-dessus de ce cadavre en éruption, la tête apparaissait, tumultueuse et énorme. Cerclée d'une couronne désordonnée d'épines, elle pendait, exténuée, entr'ouvrait à peine un œil hâve où frissonnait encore un regard de douleur et d'effroi. La face était montueuse, le front démantelé, les joues taries. Tous les traits renversés pleuraient, tandis que la bouche décellée riait avec sa mâchoire contractée par des secousses tétaniques atroces. Là-bas, Joris Karl Huysmans.
Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade.
La musique, elle vient ou elle est chez vous par votre père, qui est musicien. Comment est-ce que vous, vous commencez, en plus d'écouter la musique, à la construire, à la jouer, à la créer?
Ça, c'est tout simple, c'est que j'ai commencé à faire du piano. Et puis, à partir d'un certain âge, au départ, j'avais un vieux professeur, une vieille professeure de piano, une vieille demoiselle. C'était très classique, c'était très emmerdant, c'était très, il fallait faire ça, rien. Et c'était pas très marrant. Puis elle a pris sa retraite et j'ai donc continué le piano avec une femme beaucoup plus jeune et beaucoup plus de son époque, en fait, en réalité, et qui, justement, avait cet encouragement-là, justement, à se servir de ce qu'on savait pour improviser, pour écouter autre chose, pour voilà. Donc c'est un peu venu en fait à la fois par évidemment un pédagogue, mais aussi par le fait de maîtriser un petit peu aussi simplement de commencer à connaître quelques harmonies, quelques machins, etc. Au début on est très copieur. Je pense que les premières choses que j'ai dû faire c'était des faux Chopin, quoi, parce que j'étais en plein là-dedans et que ça me plaisait. Mais voilà, c'est en faisant en fait on a envie de s'y mettre. En disant voilà, je tiens un peu d'improvisation, c'est bien d'être encouragé par la pédagogie, évidemment, forcément.
J'ai de longs cheveux dans le dos, mi, 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 sol, fa, mi, ré, do, et dans ma robe de percale blanche, chaque jour, y compris dimanche, je vous charme d'un andantino, mi, 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 sol, fa, mi, ré, do.
En grandissant à l'adolescence, comment la musique et la passion de la lecture vont ensemble?
Alors à l'adolescence, je découvre la chanson en fait à l'adolescence. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se mélange un peu. Puis les premières chansons que je vais chanter sont des chansons finalement assez littéraires, quoi, puisque les premières chansons que j'ai dû chanter, c'est Boris Vian. Et Boris Vian est aussi bien musicien qu'écrivain, donc on est dans la problématique complètement. Il y a Brel aussi, évidemment. Brassens, ça viendra plus tard. C'est plus dans la maturité, on va dire. Mais il y a ce mélange de texte et de musique, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut pas enlever de ça, qui est la représentation publique. C'est-à-dire que ce qui va me fasciner le plus, en fait, dès le départ, c'est de me dire que chanter des chansons en s'accompagnant au piano, bon voilà, j'ai de la chance de jouer du piano, je m'en occupe avec mon oreille, donc je relève des chansons à l'oreille, etc., et je les chante. C'est un très très bon moyen de se positionner assez vite comme un personnage. Quand on est ado, c'est vachement important. Juliette, tiens, un piano, tu nous chanterais pas une chanson? Voilà, ça y est, on a gagné quelques galons. Et ça t'est surtout un rôle social. Et puis, la fascination aussi que j'ai eue, je pense, assez jeune, mais ça sans le savoir. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dans le théâtre, dans cette représentation, dans le fait d'être sur scène, dans le fait de se dire, voilà, il y a un moment, on est appelé par ça, on sait pas très bien pourquoi. La chanson, ça y répond aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, je suis en représentation.
Faudrait se lever un peu tôt pour stopper mes petits marteaux et pour m'écarter de ces touches qu'avec des...
misère de sainte nitouche. Je flatte d'un diminuendo, mi ré mi sol fa mi ré do.
Et je m'aperçois qu'effectivement là, je commence à prendre mon pied quoi. Il y a pas d'autre mot. Je commence à avoir une place qui me plaît bien et puis quelque chose à faire qui me plaît beaucoup. Il y a la fête de fin d'année de l'école quoi. Enfin c'est la fête de fin d'année de l'école. Pour moi c'est une révélation. C'est la première, j'en ai souvenir. Je devais avoir 13 ans. La première fête de fin d'année de l'école, je vais chanter la chanson des vieux amants de Jacques Brel carrément. J'ai 13 ans. Ça fait de mon âge. Parfait. Et je dois jouer une polonaise de Chopin. Enfin un truc improbable. Et je sais que c'est ça qui m'éclate. C'est ça que je veux faire. Là, par contre, il n'y a pas de doute. Comment, de quelle manière, j'en sais rien, mais je serai sur scène.
On me dessert le titre en vie de petite bûcheronne du clavier, mais je me fous bien des remarques des puristes et des aristarques. Moi, j'ai mes aficionados, mi, 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 sol, 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 dos. Je jouerai au sein des combats, kamikaze sur mon yama. Je jouerai pour vos faux prophètes et je jouerai pour vos défaites. Je jouerai.
Comment vous. Parce que vous êtes sur scène, vous chantez, ça marche. Enfin, en tout cas, vous avez envie de le faire, vous découvrez, vous avez envie de le faire. Mais comment on découvre sa voix ?
Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est. C'est pas inné, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est. J'ai baigné dedans. Ma mère, elle chantait très bien. Ma mère avait une très jolie voix, elle chantait tout le temps. Et sa mère, à elle aussi, chantait des chansons. Alors c'est marrant parce que ma mère vient d'un milieu très, pour le coup, très paysan, prolétaire. Hein. C'est vraiment des petites gens.
Du Limousin.
Du Limousin, ouais. Absolument. Et sa mère, à la fin des repas de mariage, on chantait dans les mariages. Et ma grand-mère, elle avait un répertoire et apparemment, elle chantait assez bien pour qu'il y ait des types dans le pays qui se fassent inviter à tous les mariages où il y avait ma grand-mère pour pouvoir l'entendre chanter. Donc elle avait déjà des fans. Et c'était ses seules représentations, c'était à la fin des mariages, mais elle avait comme ça des gens qui...
Elle avait son public.
Elle avait son public. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'histoire de chanter, d'avoir une voix, de chanter facilement et de pas être freinée par ça, que j'ai toujours connu en fait, en réalité. Je pense que les premières chansons que j'ai chantées quand j'étais petite, c'était Joe Dassin et Claude François, hein, mais j'aime bien ça, mais comme ça. Tagada, tagada, voilà les Dalton, tagada, tagada, voilà les Dalton. J'ai le souvenir de cette chanson. J'étais très fan de Joe Dassin quand j'étais petite, ouais. Donc la voix, je l'ai un peu trouvée comme ça. Puis il se trouve qu'après, bon, bah, en ayant fait du piano, ça fait que voilà, j'avais la chance de chanter juste naturellement. Donc voilà, je me suis un peu. Après, j'ai travaillé ma voix parce que une fois qu'elle se confronte au métier, là, c'est autre chose. C'est-à-dire quand il faut chanter tous les jours, si on l'utilise pas bien, si on la travaille pas un minimum, on va la fatiguer très vite et on va finir par avoir des emmerdes. Donc ça, je l'ai travaillé après, en fait.
C'est un petit air qui fait grincer les dents, un sale refrain plein de mort et pourtant pas une goutte de sang. Sans revolver ni poison, sans scrupules et sans cadeau, c'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est pour pas cher que la bras de l'ami, celui qui donne, celui qui trahit. 30 deniers, c'est le prix pour l'exécution facile des dessins les plus salauds. Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Les rides au visage, elle tombe de la bouche d'un mari volage, indifférent au saccage. Sans pitié, vas-y, fais mal, frappez-tu, allez bourreau, fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Ils donnent au journal le nom du coupable, même si demain le cas. Celle quand canon frappe les mots, quand canon la ritournelle des assassins sans couteau.
Quand canon la ritournelle des assassins sans couteau.
Ce que le pouvoir enivre et corrompt, les petits chefs à coups d'humiliation s'en servent surtout.
tous les temps. Le menton plein d'arrogance, des vers sans la haine à flot, nazis et la belle romance, des assassins sans couteau. Qui la connaît pour l'avoir chantée mille fois déjà sans être inquiétée. Méfie-toi, le vent peut tourner. Susurrer à mots choisis et te planter dans le dos la lugubre mélodie des assassins. Des assassins sans couteau.
France Inter. La source.
À Paris, dans le 12e arrondissement, entre un piano et trois paires de lunettes, Juliette parle des livres et des chansons qui l'ont construite. Se souvient-elle de la première chanson composée ?
Oh, je crois que c'est difficile de ne pas s'en souvenir. Je m'en souviens très bien de la première chanson que j'ai écrite et composée. C'est une chanson rigolote qui disait, ça s'appelait Fantasme. Et c'était une chanson qui parlait d'une femme qui s'ennuyait, qui avait trouvé la solution à ses problèmes de solitude et elle se tapait dans ses fantasmes. Donc, tous les compositeurs. donc, il y avait Chopin, Schumann. Et alors il y avait des problèmes, il y avait eu un problème avec Tchaïkovski, ça n'avait pas trop bien marché, je me demande pourquoi. Et puis à la fin, je disais, bon, mais quand j'aurai fait le tour des compositeurs, il me reste, après, il me reste justement tous les écrivains. Et donc, je me taperais Victor Hugo, etc. Et ça se terminait par George Sand, évidemment, pour faire une chute à la chanson et que ça soit un peu rigolo. Voilà, c'était ma première chanson, ça s'appelait Fantasme.
Qu'est-ce que ça change dans une vie d'écrire sa première chanson ?
Alors, je ne sais pas ce que ça change dans une vie d'écrire sa première chanson à mesure que j'ai écrit celle-là. Puis après, je me suis bien calmée parce que je me suis dit, je n'ai pas d'idée particulièrement. Je ne sais pas si j'en ai écrit beaucoup, en fait, à cette époque-là. Après, je me rappelle de la première. Je me souviens de la première. Mais par contre, je ne me souviens pas des autres derrière. Donc, ça veut dire que je n'ai pas dû en écrire beaucoup. Et puis, assez rapidement, je me suis dit, les textes, ce n'est pas mon truc. Je ne vais pas écrire des textes. Je vais laisser ça aux autres. Donc, j'ai travaillé avec des auteurs. Et jusqu'à ce que j'y revienne en me disant, mais en fait, je suis complètement... Je suis vraiment une feignante, quoi. Parce que, en fait, ça m'éclate complètement. J'adore. Maintenant, je suis très, très. J'adore écrire des textes. Enfin, je me régale avec ça, quoi, vraiment. Pour moi, c'est plus un travail. C'est une espèce de passe-temps, un peu comme des gens qui vont faire des grilles de mots croisés 24 heures sur 24, quoi. C'est un peu ça. Ça m'amuse autant, en fait. C'est un jeu.
Et vous aviez quel âge quand vous avez écrit cette première chanson ? Et vous aviez quel âge quand vous vous êtes remise à écrire vos propres chansons ?
J'avais 15 ans quand j'ai écrit la première et j'avais 30 ans quand j'ai réécrit après, donc j'ai laissé 15 ans et 15 ans, c'est bien, ça fait un compte rond. J'attendais d'avoir des idées. J'étais pas du genre à me dire les idées on les trouve si on les cherche, hein. Franchement, c'est un boulot aussi de trouver une idée. Et moi j'attendais que ça me tombe dessus. Donc quand j'avais une idée, j'écrivais un truc, j'étais contente, mais c'était rare, quoi, parce que j'avais tellement occupé à faire autre chose que j'avais pas le temps de chercher. J'avais pas encore compris qu'il fallait chercher les idées.
Être seul a du bon, mais on n'a que demain. Or, il est des moments où l'on en voudrait plein. Ainsi, lorsqu'il s'agit, sans espoir de rescousse, de fourrer une couette au-dedans d'une housse. C'est à n'en pas douter labeur digne d'Hercule, à l'exemple de qui n'avance pas recul. On espère, on déchante, on pleure, on sue, on tousse, étouffé dans la couette et bouffé par la housse. Y a-t-il seulement de stratégie qui vaille sous le fond et l'enfer des chambres de bataille? L'ennemi tente encore une sortie qu'on repousse, mais à revers la couette vient délivrer la housse. Agitant le pilou comme une mouletta, dans l'arène où je vis mon tout dernier combat, à 5 heures du soir, torero andalous. Corné par la couette et gisant sur la housse.
Comment on cherche une idée ? Où est-ce qu'on les débusque ?
Partout. je suis vraiment persuadée qu'on peut le faire partout. Il faut juste prendre un peu de temps de méditation. En fait, c'est presque de la méditation. Voyons, je suis en train de regarder mon briquet. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Est-ce que je vais trouver une idée avec ça? Est-ce que j'ai une histoire à raconter avec un simple briquet ou une boîte d'allumettes ou quelque chose comme ça? C'est un exercice, hein. C'est l'imagination qui travaille surtout là-dessus. C'est pourquoi il est là, à qui appartient-il, de quelle couleur il est et qu'est-ce qu'il me raconte?
La vie est faite d'escaliers de toutes sortes, pour aller de cave en grenier, de porte en porte. Et qu'ils soient droits, qu'ils soient tordus, on les affronte. Quand on les a bien descendus, on les remonte. On sait bien que les escaliers font le cœur battre, comme ceux qu'on grimpe à la volée, et quatre à quatre. Ainsi nos amours de bohème de quelques heures s'abritent toutes au sixième, sans ascenseur. Pourtant on retourne au premier se mettre en ménage. Il y a toujours un escalier pour chaque étage.
D'où le titre de l'album du dernier là, que je viens de sortir, qui est vraiment chanson de là où l'œil se pose. En fait j'ai toujours fait ça, j'ai toujours posé mon œil en disant voyons est-ce qu'il y a une chanson à faire avec ça.
Tous les escaliers mènent à Rome.
Et c'est un peu ce qui me semble être le bon travail à faire au départ. C'est-à-dire, les idées, on peut en avoir et puis elles s'agrègent. C'est très rigolo comme parfois on a une idée en se disant « Ah, ça c'est bien, ça pourrait faire une chanson. » Puis non, en fait non. Alors on la met de côté, c'est pour ça que j'écris, je barre, je n'efface pas, je raye ce que j'écris parce que je me dis « Sous la rayure, je peux relire ce que j'ai écrit. » Et donc cette idée n'est pas bonne maintenant, mais peut-être qu'elle va s'agréger à une autre. Et puis se dire, tiens, bah ça colle avec ça, et tiens, ça pourrait faire un... Voilà. Ah ben, je vais me resservir de ça. J'avais pas écrit un truc là-dessus. Ah si, j'avais écrit un truc là-dessus. Boum, boum, on regarde les carnets, et puis on retrouve des trucs. Et puis on se dit, ben voilà, c'est ça, c'est bien, ça va marcher.
J'aurais encore des choses à dire sur le sujet, mais de tous mes défauts, le pire, c'est que je n'ai jamais, sur le moment, la répartie, la bonne idée. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de l'escalier.
Est-ce que vous écrivez en jouant? Est-ce que la mélodie vient après? Est-ce qu'elle vient avant? Comment les mots et les notes décident ou non de s'asseoir à table ensemble?
Ça dépend des fois. Il y a des fois, il y a des textes qui vont venir d'abord. Une formule qui va bien me plaire, un truc comme ça, où je me dis, tiens, j'écrirais bien une chanson comme ça, là là là, ça marche. Et puis après, je vais chercher la mélodie. Et en général, quand ça marche dans ce sens-là, je m'oblige toujours à chercher des mélodies très simples. Une espèce d'évidence, en fait. Il faut que ça soit très simple. Je vais compliquer les choses après, en harmonisant, en arrangeant. Mais voilà, c'est parce que j'aime bien que les phrases, elles chantent toutes seules, en réalité, souvent. Et de la même manière, on peut faire l'inverse. Ça m'arrive de faire l'inverse, c'est d'avoir une mélodie en me disant « ça, c'est joli, ça marcherait bien pour un truc ». Et puis, oui, mais qu'est-ce que je vais mettre dessus? Donc, qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette mélodie-là? De quoi elle me parle? Alors là, je fais la même chose qu'avec mon briquet, je regarde derrière, je me dis, oui, c'est une chanson triste. Oui, mais sauf que parfois, une mélodie triste, c'est bien que ça soit pas forcément une chanson triste qui raconte des choses tristes. Donc, voilà, on bricole les trucs un peu selon les circonstances. Il y a des choses qu'on fait exprès. Par exemple, je me souviens quand j'ai écrit Météo Marine, j'ai écrit le texte d'abord, et puis je me suis dit, bon, bah, voyons, c'est un spleen, comment est-ce qu'on fait ça en musique? Donc j'ai convoqué absolument toutes les choses que je sais, parce que maintenant je commence à connaître deux, trois trucs, voilà, d'une simplicité harmonique et en même temps de jamais terminer les phrases, de jamais les résoudre vraiment, de les laisser tout en suspens. Et ça marche très très bien pour le côté... c'est un peu triste, quoi. Enfin, c'est pas triste, c'est... Ça met une ambiance...
Mélancolique.
Oui, c'est encore un peu plus autre chose que la mélancolie, c'est vraiment... ouais, il y a une suspension, il y a un truc qui ne se résout pas, il y a un truc qui ne se règle pas. On ne règle pas le problème, on n'arrive pas sur le... On entend la mélodie devrait tomber là, puisque l'harmonie y amène, et on ne le fait pas. Donc il y a un côté, ça ne finira jamais, quoi.
Et c'est ça qui est agréable.
Oui, c'est ça qui... Là, pour le coup, c'est fait exprès. Je décide que je vais pas me laisser aller à une inspiration comme ça, comme elle vient, vraiment, je le fais exprès.
Ce n'est qu'un jour, comme ça. On dit ça va, mais ça va pas. Un jour à rien, un jour à spleen, un jour à météo marine.
et j'attends là où l'est le grain, en allant pêcher du chagrin. Viking et Cyr et Cromarty dans le flot des rues de Paris. Avide vent fort, en cours ou prévu, ce n'est pas la mort, mais c'est sans salut. Si on pleure encore, c'est qu'on est perdu. Avide vent fort, en cours ou prévu.
Vous avez parlé tout à l'heure des auteurs avec qui vous avez travaillé pour vos chansons. Est-ce que pour vous, que ce soit les musiciens, musiciennes, auteurs ou autrices, est-ce qu'une chanson, c'est d'abord un élan collectif, ou est-ce que c'est une émotion qui vient d'un cœur simple, comme dirait le bon Flaubert ?
Vous êtes en train de parler des pages de littérature que j'adore. J'adore Un cœur simple, c'est merveilleux. Est-ce que ça vient de là, ou est-ce que c'est un élan collectif ? J'ai envie de dire ça dépend. En général, en fait, ça dépend vraiment, parce que des fois, des choses qu'on peut faire ensemble qui sont fondamentalement enthousiasmantes, parce que justement, on n'a pas toutes les idées et que celles qui viennent des autres sont souvent meilleures que les siennes propres. Mais il se trouve que moi, pour l'écriture de chansons, j'aime bien mon côté un peu travail solitaire. J'aime bien, je veux dire, on prend une planche de bois, on met quatre pieds, on a fait une table. Mais si on chantourne un petit peu les pieds, si on les travaille un peu, ça va être plus joli. Et puis c'est un peu mon œil et ma main qui vont décider. C'est pas mal aussi. C'est tendance à travailler un peu seul quand même.
Cette lueur dans mon œil est enivrante comme les vapeurs de haschich sorties d'un vieux chillum. Ton esprit vagabonde sous le doux lot d'un homme. Mon œil dans ton œil est un vendeur d'opium. Cette lueur dans mon œil en épingle vaudou, plus sûrement que tout, à mon amour te cloue. Maniant les sortilèges et bravant les tabous, mon œil dans ton œil est un peu marabout. Cette lueur dans mon œil qui te suit à la trace, tous les sens aux aguets et la griffe rapace, fait pâte de velours, rejoue et puis se lasse. Mon œil dans ton œil est un félin qui chasse. Cette lueur dans mon œil raconte des histoires de tigres, de sorciers, de fumée qui égare. Mais ton œil impassible, indifférent miroir, ton œil dans mon œil ne semble pas les voir. Cette lueur dans mon œil, dans le plaisir qui dure, dessine tes contours entre clair et obscur, colore tes soupirs par de sombres murmures. Mon œil dans ton œil est un artiste sûr. Cette lueur dans mon œil met le feu à tes joues, malmène ton sein nu, te serre un peu le cou et tatoue sur ta peau un douloureux bijou. Mon œil dans ton œil se comporte en voyou. Cette lueur dans mon œil à ton corps qu'elle étreint inflige les vertiges de la mort qui s'en vient. Un cri, encore un cri. Dans ton œil est un bel assassin. Cette lueur dans mon œil retourne sa nuit noire. ce n'était qu'une lueur dans ton œil sans mémoire, une lueur muette et que l'on voit sans voir. Mon œil dans ton œil n'était rien qu'un regard.
Juliette, pour habiller cette émission, je vous ai demandé de choisir des chansons françaises importantes pour vous. Quelles chansons avez-vous choisi?
Alors, les chansons importantes pour moi. Alors déjà, je vais regretter mon choix dès 5 minutes après qu'on aura parlé, parce que il y en a trop que j'aime bien. Il y aura forcément Jaurès de Brel.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre.
Donc voilà, Jaurès de Brel, parce que tout est dit avec une pudeur magnifique et sans être trop, pas premier degré, mais voilà, si quand même c'est ça, c'est pas premier degré, c'est-à-dire cette espèce de façon de dire une situation sans être revendicatif.
15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre.
Voilà, souvenez-vous, belle jeunesse, oui, c'est... Pourquoi ont-ils tué Jaurès? C'est vraiment fondamentalement la question de la chanson et...
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Et waouh, quoi, quel beau moment de vraie politique, en fait. Pour moi, c'est ça, la politique. Ça peut être quelque chose de très noble, de très porteur.
On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves.
Et sans chapelle, sans... Je pense pas que Jacques Brel était un dangereux gauchiste, quoi. Par exemple, c'est pas Ferré de ce côté-là. Il n'est pas un chanteur engagé, Jacques Brel, hein, au terme où on l'entend. Et qu'est-ce que cette chanson dit, quoi, comme chose essentielle.
Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Quelle autre chanson avez-vous choisie?
Alors, j'ai choisi une chanson qui va, comment dirais-je, allier deux de mes passions, c'est Victor Hugo et Georges Brassens. Tant que j'aurais pu choisir un texte de Brassens, mon Dieu, qu'il a écrit de chansons merveilleuses, cet homme-là, et des textes d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une grande clairvoyance et de beaucoup de qualités pour lesquelles on ne trouvera jamais assez de qualificatifs. Mais celle-là, elle m'amuse, c'est La Légende de la Nonne. Donc, voilà, bah oui, mais c'est tellement beau.
Venez-vous dont l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'allonge où s'entassent les collines et les halliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Georges Brassens fait partie des... Je détesterai de dire ça, je suis sûr. Mais c'est un des grands monuments de notre littérature, de notre langue, tout simplement, la langue française, quoi. Quelle façon de la maîtriser, c'est même pas la tordre, il la tord pas, au contraire, il la magnifie, là. Il est un auteur extraordinaire, indépendamment de simplement le fait que ce soit que des chansons.
Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla.
Et le fait qu'il rencontre Victor Hugo et que, bien Victor Hugo n'aimait pas trop qu'on mette ses textes en musique, ce qui a quand même été fait, y compris de son vivant, mais j'ai trouvé formidable que dans... D'abord parce que Victor Hugo a écrit des chansons, finalement, les chansons des rues et des bois ou quelques textes des orientales sont déjà des chansons. Et là, en l'occurrence, La Légende de la Nonne, c'est une chanson, il y a un refrain. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa.
un fier brigand de la Le Malacarabine aussi, c'est une chanson, quoi. Il y a des... Victor Hugo écrit des chansons. Donc, un musicien passe derrière et finit le travail. Et puis, il se trouve que c'est Brassens, donc c'est parfait.
Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant.
Waouh.
Mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Et une dernière pour la route.
Alors une dernière pour la route, ça va être évidemment ça va être Nougaro. J'ai dit évidemment parce que bon, mais Nougaro, il y en a plein. J'aime absolument Nougaro. C'est, il y a des choses merveilleuses. Il y a, j'hésite même en parlant encore, bien que j'ai arrêté mon choix sur la une des plus connues, mais tant pis parce qu'elle est merveilleuse. Je vais envoyer Toulouse parce que évidemment. D'abord, évidemment.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi.
Le souvenir que j'ai de cette chanson est tellement merveilleux, c'est-à-dire que je connaissais la chanson quand je suis arrivé à Toulouse. Je ne suis pas né à Toulouse, moi j'ai grandi à Toulouse. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la première fois que j'ai commencé à visiter Toulouse, enfin à y habiter, donc à traverser Toulouse le matin, et puis à connaître la vie des Toulousains, et là, même les mémés aiment la castagne, et puis l'accent, et puis la pincée de tuiles, et tout ça. Cette chanson, c'est sans doute la chanson la plus réussie qu'il y ait jamais eu sur une ville. Il est impossible maintenant d'écrire une chanson sur Toulouse, c'est fait, tout est dit. Et ça marche encore aujourd'hui, c'est-à-dire que cette ville est encore ça.
Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse.
J'ai un très joli souvenir avec Nougaro d'ailleurs. On était, il se trouve qu'on était dans le même avion qui nous ramenait sur Toulouse. Et ce qui est merveilleux, c'est que le commandant de bord, il a pris la parole pour dire on va atterrir dans quelques instants. Et il a dit le temps est gris, désolé pour la pincée de tuiles. J'avais les poils au garde à vous, je me suis dit c'est trop beau. C'est, le jour où on écrit quelque chose et que même le commandant de bord et le site est au courant, c'est tellement c'est tellement merveilleux quoi. Ça m'avait beaucoup touché. Donc Toulouse, parce que c'est une chanson parfaite.
Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile, ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse.
Juliette, ça fait une heure que nous parlons de vos chansons et des chansons des autres. On sait un peu d'où elles viennent, vos chansons, mais où vont-elles? Est-ce qu'elles s'adressent à quelqu'un? Est-ce qu'elles ont une destination?
Alors ça je sais pas trop. Moi j'aime bien dire que ma destination c'est la postérité, parce que je pense que quand on écrit ou quand on fait quelque chose, on se dit que ça va nous survivre. C'est un peu j'imagine aussi une façon de se prolonger dans un futur improbable. Donc j'écris peut-être pour ça, pour la postérité, j'en sais rien. Mais je sais pas où elles vont. Je sais que de toute façon, elles sont faites. Je les ai faites le mieux que je pouvais, et tant mieux si ça rencontre quelques échos chez d'autres personnes. Ça me fait plaisir. Ça nous fait un point commun.
La peur, la solitude, les sales habitudes. Il y a tant d'assassins. Tapis dans les lignes de ma main. Car au fond je sais bien de quoi sera fait demain. Il n'y a pas de mystère, pas de présage, pas de sorcière. Il n'y a que le hasard de la vie qui s'égare, comme elle peut même mal, et rien dans les boules de cristal. Mais nous sommes ainsi faits, impuissants et distraits, qu'il faut nous contenter des seuls espoirs qu'on fait danser dans le marc de café.
C'était La Source, une émission préparée par Fanny Leroy, réalisée par Anne Van Feld, à la technique Pierre Henry. La semaine prochaine, je suis dans le Gard avec une autrice qui interroge les animaux.